8h passées de 30 secondes sur France Culture. Le journal Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Drapeau en berne sur la Maison Blanche en mémoire d'une icône de la lutte pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. La doyenne de la Cour suprême aux États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, est décédée cette nuit à l'âge de 87 ans. Dans ce journal, nous entendrons cette grande voix de la lutte pour l'égalité. En Espagne, la région de Madrid impose des restrictions draconiennes concernant 13% de sa population pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Reportage à suivre, notre correspondant sur place, Mathieu de Taillac.
En France, les tests salivaires sont désormais utilisables, mais chez les personnes présentant des symptômes.
Oui, selon un avis de la Haute Autorité de Santé rendu hier, l'espoir est donc de faire réduire les immenses files d'attente pour se faire tester. La France a enregistré plus de 13 200 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un nouveau record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les chiffres de Santé publique France.
Et c'est dans ce contexte que se tiennent, malgré tout ce week-end, les journées européennes du patrimoine.
Oui, la 37e édition est maintenue, sauf dans certaines villes comme Nice, Bordeaux ou Marseille, en raison des conditions sanitaires. Reportage à suivre à Paris, dans la ruche. Reportage donc dans quelques instants. Votre invité, Caroline.
Le philosophe Dominique Bourg, qui est avec nous pour parler d'écologie. Les maires écologistes nouvellement élus provoquent une volée de bois vert en voulant mettre fin à des événements qu'ils jugent en contradiction avec la préservation de l'environnement. Le président américain parle du refroidissement du climat à venir pour arrêter les incendies en Californie. Notre président à nous s'engage pour la 5G. Autant de thèmes qui intéressent particulièrement notre invité. Le philosophe donc, Dominique Bourg.
Une femme d'exception, c'était le nom du film sorti en 2018 qui avait retracé son parcours hors norme aux États-Unis. Ruth Bader Ginsburg, la doyenne des juges de la Cour suprême, s'est éteinte hier soir à l'âge de 87 ans. Icône de la lutte pour l'égalité des droits, notamment entre les femmes et les hommes. On écoute Ruth Bader Ginsburg.
Dans les années 70, le mouvement pour les droits des femmes était en plein boom. Et pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde entier. Il y avait des volontaires internationaux, il y avait cette question des droits qui était importante pour les gens. Et comme le disait un grand juriste, la Cour suprême ne devait jamais réagir à propos de la météo du jour. Mais inévitablement, elle réagira au climat de l'année. Et le climat était bon pour ce changement.
Une archive de l'université de Hastings en Californie qui date de novembre 2011. Ruth Bader Ginsburg aura marqué la société américaine sur plusieurs générations à New York. Loïc Loury.
Des tasses, des t-shirts, des costumes d'Halloween à son effigie, Ruth Bader Ginsburg était devenue une icône particulièrement populaire. Derrière ses grandes lunettes, RBG était une juriste brillante, militante féministe reconnue avant d'être nommée par Bill Clinton à Washington où elle aura passé 27 ans. Au sein du temple du droit américain, elle défendra les femmes. Il était temps, disait-elle en 2018, interrogée sur le mouvement MeToo, mais aussi les homosexuels ou les migrants, toujours progressistes et toujours indépendantes. Aujourd'hui, l'émotion dans le camp démocrate est à la mesure du personnage et de son legs, mais sa mort est aussi une bombe politique à 45 jours de la présidentielle. Car Donald Trump, qui a déjà nommé deux juges à la Cour suprême, compte bien la remplacer par un conservateur, faisant basculer pour très longtemps la juridiction. C'est face à cette même cour que des centaines de personnes hier soir se sont rassemblées pour lui rendre hommage. Mais la bataille politique n'a pas attendu la fin du deuil pour commencer.
Loïc Loury à New York pour France Culture.
À Madrid, 37 secteurs de la capitale espagnole sont soumis à des mesures de confinement localisées.
Oui, dans les zones les plus touchées par le Covid-19, les habitants seront tenus de ne pas s'éloigner de leur quartier ou de leur commune, sauf pour raisons professionnelles ou cas de force majeure. Ce sera à partir de lundi. 858 000 personnes sont concernées, soit 13% de la population de la capitale, Mathieu de Taillac.
La présidente de la région a insisté, il ne s'agit pas d'un confinement, mais de simples restrictions de mobilité. Peine perdue, à Usera, un quartier du sud de Madrid concerné par les mesures, la pilule est dure à avaler. Andrea, 23 ans.
Yo pienso que no deberían confinar determinados distritos, sino todo lo que es Madrid, porque...
Je pense qu'ils ne devraient pas confiner certains quartiers, mais tout Madrid, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler si le virus va sortir de la zone ou pas. Les gens qui travaillent ici vont travailler ailleurs, ils touchent des choses, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le contrôler. Moi, je travaille au nord de Madrid, c'est là que je fais mon stage. S'ils arrivent à le faire respecter, j'imagine que ça fonctionnera. Sinon, la propagation continuera.
Edgar Livreur faisait la queue hier soir devant le centre de santé publique Joaquín Rodrigo. Il veut croire que les mesures seront efficaces, mais selon ce quadragénaire, les pouvoirs publics auraient pu prendre les devants.
On manque de ressources. Sur ce panneau, c'est écrit « Soutien à la santé publique ». Parce qu'ici, il n'y a pas assez de personnel. Il faut faire une queue énorme. Il faut venir en personne parce que par téléphone, c'est impossible. Mais bon, nous, on peut avoir les opinions que l'on veut. Tout ça, c'est là-haut que ça se décide.
La région promet de multiplier les tests. Les habitants des quartiers de Madrid attendent de voir des mesures de santé publique qui aillent au-delà des restrictions.
Le Royaume-Uni fait face à une deuxième vague de nouveaux coronavirus, a prévenu le Premier ministre Boris Johnson hier. Son gouvernement n'écarte pas de recourir à un nouveau confinement général pour toute l'Angleterre. Alors qu'en France, plus de 13 200 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés par Santé publique France en 24 heures, un nouveau record depuis que les tests sont effectués à grande échelle. La Haute Autorité de Santé vient de rendre un avis positif pour l'utilisation des tests salivaires, mais uniquement pour les personnes présentant des symptômes. Le but est de désengorger les files d'attente pour se faire dépister. Alors qu'on a appris hier soir que les mesures du plan blanc ont été réactivées cette semaine pour les hôpitaux d'Île-de-France. À cause de la progression de l'épidémie, l'Agence régionale de santé a demandé à tous les établissements de la région de se mettre en ordre de marche pour accueillir les malades qui arrivent de plus en plus nombreux, Anne Lardanier.
L'Agence régionale de santé a demandé aux hôpitaux d'Île-de-France de réactiver leurs cellules de crise et de lui communiquer la liste des personnels mobilisables ainsi que le nombre de lits disponibles. L'idée, c'est de pouvoir répartir les malades entre les différents établissements et de faire appel à du personnel supplémentaire là où il y en a le plus besoin. La tension est montée d'un cran dans les hôpitaux de la région la semaine dernière avec un bond de près de 90% des passages aux urgences pour des cas de Covid. C'est cette courbe exponentielle qui a poussé la L'ARS a réactivé les mesures du plan blanc. Un plan déclenché le 13 mars dernier par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui n'a jamais été levé, mais dont les mesures avaient été assouplies après l'accalmie post-confinement. Aujourd'hui, explique un membre de la direction de l'ARS, les chiffres repartent à la hausse, donc on réactive.
Alors qu'on a appris hier que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avait été testé positif au Covid-19, il s'est mis à l'isolement tout en précisant ne présenter aucun symptôme et continuer à exercer ses fonctions. Au procès des attentats de janvier 2015, la cour d'assises a donné hier la parole à la famille de Clarissa Jean-Philippe, cette jeune policière municipale abattue à Montrouge, tuée alors qu'elle intervenait le 8 janvier 2015 sur un accident de la circulation. Son ancien collègue et l'employé de service propreté qui a affronté ce matin-là Amédi Coulibaly ont également témoigné à la barre. Mais des zones d'ombre demeurent à l'issue de cette troisième semaine d'audience, Florence Turme.
Pourquoi Amédi Coulibaly était-il à Montrouge le 8 janvier au petit matin, veille de la prise d'otage de l'hypercachère, déjà lourdement armé? Pensait-il attaquer l'école juive située tout près du boulevard où la jeune policière Clarissa Jean-Philippe intervenait sur un accident de la circulation? Plusieurs témoins et parties civiles ont érigé en certitude l'hypothèse des enquêteurs. Mais les questions sont encore plus nombreuses concernant l'agression de Romain, ce jogger touché par plusieurs balles le soir du 7 janvier sur la coulée verte de Fontenay-aux-Roses. Aucun indice ne permet a priori de relier cet événement à une piste terroriste. Les policiers vont d'ailleurs d'abord penser à un règlement de compte, mais rien dans la personnalité ou la vie du jeune intérimaire ne vient valider cette autre hypothèse. La cible, le mobile, l'identité de l'agresseur, question sans réponse, admet l'ancien chef de la police judiciaire des Hauts-de-Seine. La balistique est le seul élément qui permette de faire le lien avec Amédi Coulibaly, car l'arme utilisée pour tirer sur le jeune homme est un Tokarev, l'une de celles retrouvées à l'hypercachère. Pourtant, la victime reste persuadée que son agresseur n'est pas noir. Il a même désigné sur les albums photos l'un des accusés présents dans le box, Amar Ramdani, que l'enquête a finalement mis hors de cause. Il a bénéficié d'un non-lieu. Amédi Coulibaly, lui, habitait à deux pas. Une heure plus tard, il achète une pizza à Gentilly et le gérant du restaurant se souvient d'un homme vêtu de noir, gilet tactique et sac à dos très chargé. L'audience n'aura pas permis de lever les interrogations. L'auteur a-t-il voulu faire un essai avant de passer à l'acte le lendemain, risque l'enquêteur à la barre, et il répond « on peut l'envisager ».
Florence Turme.
France Culture 8h09, suite du journal. C'est le résultat d'un combat de près de 60 ans. Le Conseil constitutionnel vient de donner raison aux descendants et ayant droit des mineurs grévistes de 1948 et de 1952.
Oui, dans le Nord-Pas-de-Calais, leurs parents s'étaient mis en grève pour lutter contre la baisse de leur salaire et près de 3000 d'entre eux avaient été licenciés comme mesure de rétorsion. Depuis 2014, les descendants de ces mineurs ont en théorie droit à une indemnisation, mais en théorie seulement, car l'administration bloquait leur dossier. 50 d'entre eux avaient engagé une action. cette victoire hier. C'est donc une reconnaissance et un immense soulagement pour René Dufossé, qui habite dans le bassin minier de Levarde. Manon Klein l'a rencontré.
Après des années de combat, cette victoire, René Dufossé n'y croyait presque plus.
On était de déception en déception, vous savez, on se pose toujours des questions, donc on se demandait si on allait en voir la fin de toutes ces choses-là.
Mais ça, c'était avant que le secrétaire de la CGT chez les mineurs, Raymond Fracoviac, l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle.
La première des choses, quand Fracoviac m'a dit « ça y est, on a gagné », excusez-moi, j'ai systématiquement pensé à mon père, c'est normal ça. C'est mon père, c'était des vieux combattants. Ils n'avaient peut-être pas toujours raison, mais c'était des gens qui défendaient le monde ouvrier.
Le papa de René, délégué CGT à l'époque, avait dû fuir et se cacher avant d'être emprisonné pour avoir fait grève. En 2014, première victoire pour les descendants de mineurs grâce à la ministre de la Justice de l'époque.
Quand on a vu que Madame Taubira a réussi à obtenir un dédommagement pour tous ceux qui ont souffert de ça, c'était quelque chose de formidable. Et nous, on était restés dans les spectatives parce qu'on n'y pensait plus. C'était en 48, cette histoire-là.
Seulement, René n'est pas au bout de ses peines. Comme plusieurs autres descendants, on lui refuse l'indemnisation pour des raisons administratives. C'est seulement aujourd'hui qu'il obtient gain de cause.
Manon Klein. C'est la journée mondiale pour le don de moelle aujourd'hui en France. Il y a 315 000 personnes inscrites dans le registre de donneurs, ce qui est relativement peu comparé aux 7 millions de donneurs allemands. Alors il faudrait encore sensibiliser la population, selon les médecins, car près de 2 000 malades de leucémie, de lymphome ou de drépanocytose ont besoin d'une greffe de moelle osseuse chaque année. Tara Schlegel.
Ces cellules souches qui fabriquent les globules de notre sang sont indispensables à la vie, mais le don de moelle osseuse a mauvaise réputation, regrette l'hématologue Catherine Fauché.
Les idées reçues les plus répandues sont « on va me prendre la moelle épinière ». C'est un mot qu'on ne souhaiterait plus jamais entendre, nous, de notre côté, puisqu'il ne s'agit absolument pas de la moelle épinière, il s'agit de la moelle osseuse qui se trouve dans la plupart des os plats. Et actuellement, la majorité des prélèvements se font par prélèvement sanguin. Et lorsque ce prélèvement est terminé, on débranche la machine et c'est fini, on se lève et on s'en va.
Parfois, cependant, il faut recourir au prélèvement de moelle osseuse.
Notamment chez l'enfant, par exemple, il y a de nombreuses indications de greffe de moelle osseuse telle qu'elle est prélevée sous anesthésie générale. Là, le donneur est hospitalisé. Il est donc endormi et on prélève par quelques ponctions au niveau des os du bassin, mais pas profondément dans l'os, juste en dessous de la surface de l'os, parce que c'est là que se trouve la moelle osseuse.
Il est important de dédramatiser ces gestes, car chaque moelle osseuse a un profil génétique différent et il n'y a souvent qu'un seul donneur compatible au monde. On s'est aperçu récemment, explique le docteur Fauché, qu'on utilise surtout la moelle d'hommes jeunes. L'agence de biomédecine où elle travaille souhaite donc en priorité attirer de nouveaux donneurs.
Nous, dans notre registre, on a 65-70% de donneuses qui sont des femmes. Donc évidemment qu'on a besoin de rééquilibrer le registre français avec des hommes jeunes, alors de préférence moins de 35 ans, et d'origines diverses, de toutes origines en fait.
En France, il y a environ chaque année 2000 malades dont la vie dépend d'un donneur anonyme.
Tara Schlegel. Les 37e journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end, maintenues dans de nombreuses communes malgré la pandémie. Dans le 15e arrondissement de Paris, une célèbre cité d'artistes ouvre ses portes pour la toute première fois. La Ruche, fondée par le sculpteur Alfred Boucher au début du 20e siècle, ouvre ses portes. Des maîtres comme Chagall, Soutine ou encore Fernand Léger ont pu bénéficier de ses ateliers. Plus de 100 ans après sa création, la Ruche, lieu atypique, continue sur 5000 mètres carrés d'accueillir de nombreux créateurs. Ils sont une cinquantaine actuellement. C'est un reportage de Benoît Grossin avec pour guide un des artistes de la Ruche, l'un des précurseurs de l'art urbain, Ernest Pignon. Ernest.
Sur réservation, des groupes de 10 personnes, bien entendu masquées, vont pouvoir, heure par heure, franchir le grand portail d'entrée.
C'était le portail du pavillon de la femme à l'exposition universelle de 1900. On se trouve devant la rotonde. Là, les deux cariatides viennent du pavillon de l'Indonésie. Donc toute la Ruche est constituée de choses récupérées. Et donc on va rentrer dans la rotonde.
L'ancien pavillon des vins de Gironde, conçu par Gustave Eiffel, réinstallé et rebaptisé la Ruche parce que...
La rotonde est circulaire et tous les ateliers sont des triangles en quelque sorte, comme des parts de fromage quoi.
Une fois monté l'escalier central, une magnifique coupole se dévoile.
Comme vous pouvez voir en haut, on découvre la structure métallique de Eiffel.
Et l'atelier le plus emblématique, occupé par le peintre Philippe Lagautrière.
Philippe, bonjour. Comme tu as l'atelier historique, l'atelier de Chagall, si tu veux bien montrer.
D'accord, pas de problème. Quand je suis arrivé ici en 93, J'ai fait tout un travail sur justement Chagall et puis les grandes figures de la ruche. Pour moi, c'est un lieu mythique.
À l'extérieur, dans les jardins, des groupes de 10 personnes masquées vont pouvoir découvrir d'autres ateliers, dont celui d'un mosaïste âgé de 87 ans.
Léonard, on peut entrer ?
Léonard Léoni, figure historique de la ruche.
Vous êtes né ici ?
Oui, né ici. C'est pas de ma faute, c'est comme ça.
Les visiteurs seront aussi sensibilisés à la nécessaire et coûteuse restauration du bâtiment Fernand Léger, immeuble centenaire aujourd'hui quasi inaccessible.
Le temps, alternance de nuages d'éclaircies en majorité sur l'ensemble du territoire, de la pluie sur le quart nord-ouest, des orages sur l'Hérault, température 17 à 25 degrés du nord au sud.